Oeil.
Les patrons sont mécontents, on vous explique pourquoi dans ce journal. Le pays est solidaire du Vanuatu, on vous parle du dispositif d'aide. Et puis on va faire un tour au golf avant de vous présenter un nouveau concept. Le journal de la mi-journée de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Et on commence donc par cette fronde qui s'organise chez les patrons.
Oui, une fronde contre un projet de loi du pays qui vient d'arriver sur le bureau du CESEC. Un texte détaillé par Tahiti Info hier soir est consacré aux conditions d'affiliation du régime des non-salariés, le RNS, qui récolte les cotisations CPS des patentés et des libéraux. Le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, était venu en parler des grands objectifs de ce projet sur nos plateaux. Rééquilibrer les régimes en transférant plusieurs milliers d'adhérents du RCPF vers le RNS, mettre fin aussi à la primauté du régime général des salariés qui devront donc aussi cotiser à l'avenir sur leurs revenus de patentés. Mais le ministre n'avait pas parlé en revanche d'un autre aspect du projet de loi du pays, l'élargissement de l'assiette du RNS dont les cotisations toucheront, s'il est adopté, beaucoup de revenus et notamment les revenus locatifs qui feront l'objet d'une cotisation de près de 10% comme le reste, inadmissible pour la CPME qui estime que le gouvernement veut avancer sans discuter.
Bah écoutez, il n'y a pas eu de tripartite sur le sujet. Le conseil d'administration n'a pas été informé. Les partenaires sociaux avaient rencontré le ministère de la Santé, mais avaient fait des propositions et ne pensaient pas que le texte allait partir si vite, sans que le texte ait été amendé par d'innombrables demandes de modification. Le texte est parti bien trop vite. Force est de constater qu'on va être obligé de statuer sur un texte qui pour la CPME est complètement inacceptable.
Christophe Plé, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui considère ces nouvelles cotisations comme des impôts déguisés sur le patrimoine, une grande nouveauté pour la Polynésie. Ces ponctions vont, je cite, « mettre en péril la capacité des chefs d'entreprise à investir, à transmettre et à préparer leur retraite ». Bref, la CPME est prête à entrer en guerre contre le texte.
Tous les patentés et les chefs d'entreprise de Polynésie française vont s'apercevoir qu'ils vont être taxés sur tous leurs biens, que tous ceux qui préparent leur retraite en ayant l'immobilier, eh ben ils vont être taxés. Donc on parle des dividendes, on parle des comptes courants. Donc le passage au CESEC va être très houleux. Et nous, on va commencer déjà à mobiliser l'ensemble des chaînes d'entreprise. Car là, quand ils vont se réveiller après les fêtes de Noël, ils vont avoir la malheureuse surprise de savoir qu'ils ont un nouvel impôt.
Et le MEDEF devrait aussi réagir à ce projet du gouvernement qui est à l'étude en ce moment même en commission du CESEC. Quel que soit l'avis du Conseil, il faudra aussi passer par Tara Hoy qui avait déjà rejeté fin 2023 l'idée d'un impôt sur le patrimoine.
La réforme des sociétés d'économie mixte adoptée à l'unanimité par l'Assemblée.
Oui, les SEM, ces sociétés dans lesquelles le pays est actionnaire, avaient le choix jusqu'ici pour organiser leur gouvernance. Et bien bientôt, elles n'auront plus le choix et elles devront dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles du directeur général. Au PCA, les orientations stratégiques, au directeur général, l'opérationnel. De plus, le texte prévoit que le DG et les directeurs généraux délégués ne pourront pas être choisis parmi les administrateurs ni parmi les actionnaires. L'idée est de renforcer les mécanismes de contrôle et de réduire les risques de conflits d'intérêts. C'est le Conseil des ministres qui établira les montants maximaux et des avantages en nature du directeur général. Les SEM concernés, à savoir ATN, la TEP, Abattage de Tahiti et la SEM Veitama, auront 6 mois pour se mettre en conformité.
Le pays débloque des aides pour le Vanuatu et Mayotte.
Oui, le gouvernement avait déjà prévu d'étudier un geste financier à l'égard de Mayotte, dévastée samedi par le passage d'un cyclone. C'est ajouté lundi, le Vanuatu, secoué par un puissant tremblement de terre qui a provoqué d'importants dégâts. Les opérations de secours y sont toujours en cours et à ce stade, 16 morts ont été officialisés par les autorités, dont un ressortissant français. C'est dans ce contexte que l'exécutif polynésien prévoit une aide financière de 3 millions de francs pour Mayotte et de 5 millions à l'égard du Vanuatu. Des montants fixés en fonction des possibilités budgétaires et en référence à ce qui s'est déjà fait par le passé, c'est ce que précise le président Moetei Brotherson.
Ces aides vont être fléchées vers les organismes les plus efficaces. On est toujours dans l'attente pour Mayotte, puisque c'est le ministère de l'Intérieur national qui gère la situation de crise à Mayotte. Pour le Vanuatu, on a eu une réunion hier avec les services du haut-commissaire qui sont en relation avec le dispositif France, et on nous a donc fait remonter que l'organisme adéquat serait la Croix-Rouge.
Et le pays avait aussi, lors de certaines catastrophes naturelles passées, mis en place ses moyens humains et logistiques. Cette fois, la possibilité d'affréter un bateau de la flottille administrative est à exclure.
On vous avait suggéré d'affréter le Tahiti pour embarquer des hommes, des vivres, etc., etc. Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Vous savez, l'affrètement du Tahiti c'est 20 millions. Donc, c'est une dépense finalement fixe qui viendrait obérer tout dispositif qui serait mis en œuvre, sauf s'il s'agit d'un dispositif de très grande ampleur.
Et justement, le sujet a fait réagir ce matin à l'Assemblée.
Oui, réagir Édouard Fritsch qui s'est senti attaqué par certains des propos de Moët Eybrozerson, justement. Le président avait précisé hier dans les journaux télévisés que les conteneurs de produits envoyés au Vanuatu en 2015 par bateau après le cyclone Pam avaient pourri au soleil. Odieux et faux, lance Édouard Fritsch, qui estime que son successeur a inventé une histoire et ne se montre pas à la hauteur du devoir de solidarité vis-à-vis du Vanuatu.
En 2015, nous n'avions pas sollicité les services du Tahiti Nui. Nous ne l'avons pas fait. Il est donc totalement odieux et erroné d'évoquer une location de 25 millions pour l'affrètement du Tahiti Nui, et encore une fois devant les caméras, avec un rire moqueur et dédaigneux. Mais la question que je me pose moi aujourd'hui, en entendant tout ça, est-ce la conception de la solidarité d'un gouvernement Tavini à l'égard d'un pays indépendant ? Parce que je me rappelle avoir réagi lorsque j'étais aux affaires, avoir réagi pour le Vanuatu suite à un coup de fil de votre président, M. Oscar Temaru. Ça me renverse. 5 millions envoyés, c'est bien sûr que c'est de l'argent, mais est-ce cela notre solidarité ?
Édouard Fritsch qui interpellait donc Moët Eybrozerson il y a quelques minutes à Tarahoy. Le président ne lui a pas répondu tout simplement parce qu'il n'était pas présent à l'Assemblée ce matin.
Toujours du côté du Conseil des ministres, le gouvernement a validé une nouvelle revalorisation du prix du copra.
À partir du 1er janvier 2025, il passera donc de 155 francs à 165 francs le kilo. Une hausse qui vise à soutenir la reprise de la production en baisse depuis 4 ans, selon le ministre de l'Agriculture, Taïvini Tehei. Plus de 5000 copraculteurs devraient en bénéficier. Pour rappel, une première hausse de 5 francs avait déjà été actée le 1er août dernier.
Le pays lance son aide à l'aménagement des terrains agricoles privés.
Oui, ce dispositif de soutien aux propriétaires de terrains privés inexploités est opérationnel. Il s'agit d'une réforme des aides déjà existantes depuis 2017 qui propose une prise en charge jusqu'à 100% des études préalables et des travaux d'aménagement de ces terrains, comme le terrassement, la création de pistes d'accès ou encore l'installation de réseaux hydrauliques. Jérôme Le Cerf est adjoint à la direction de l'agriculture.
Et on se rend compte que le coût des travaux pour l'aménagement foncier sont très importants. On est maintenant entre 1 et 5 millions d'hectares en aménagement, selon s'il y a des pistes à faire, si on sait de l'aménagement hydraulique à faire. Et la plupart des porteurs de projets ne sont pas en capacité de financer leur quote-part. C'est pour ça que ce dispositif, il permet d'aller jusqu'à 100%. Mais à côté de ça, le pays essaie d'avoir plus de garanties pour que l'objectif de valorisation agricole soit atteint.
Des garanties qui avaient été demandées par le CESEC dès janvier. Les conseillers s'étaient dit réservés sur cette idée de financer avec des fonds publics des accès et des aménagements qui resteraient 100% privés et qui pourraient donc in fine échapper à leur objectif initial. Le gouvernement assure avoir posé ses conditions avant de distribuer l'enveloppe de 200 millions prévue pour 2025. Les terrains doivent être classés en zone agricole protégée. Les projets agricoles eux-mêmes seront évalués sur des critères comme la valeur ajoutée économique, la création d'emplois et l'expérience des exploitants ou encore des preuves de formation seront exigées.
De l'argent encore pour rendre le golfe un peu plus sexy.
Oui, le golfe de Tahiti est géré par l'EGAT, un EPIC dont les comptes avaient été mis un temps sous surveillance et qui reste largement déficitaire. Lors de l'analyse du budget 2025 à l'Assemblée la semaine dernière, les 150 millions de dotations de fonctionnement annuel ne sont pas passés inaperçus. Dans l'opposition, Nui Olore a proposé de la réduire d'une vingtaine de millions pour créer, dit-il, l'électrochoc, la prise de conscience sur le manque de visibilité financière de l'établissement de Papara. Avant de rappeler deux des revendications majeures d'un rapport saignant réalisé en 2018 par la CTC, une réfléchir à la pérennité de l'EGAT et deux la privatisation du golfe. Le gouvernement ne semble pourtant de prime abord pas aller dans le sens d'un retrait d'Atima Ono, puisque ce même budget prévoit un investissement de 100 millions de francs au bénéfice de l'EGAT, une dotation exceptionnelle qui doit lui permettre de réhabiliter son 18 trous, en vue notamment des Jeux du Pacifique qui se dérouleront sur ce parcours. Un grand chantier jugé nécessaire par le directeur de l'établissement Herman Mull et pas seulement à cause de Tahiti 2027.
Alors aujourd'hui, on a besoin de réhabiliter le golfe pour le rendre d'abord plus accessible et beaucoup plus, j'allais dire, sexy pour le golfeur, et également de le remodeler un peu parce que le parcours n'a quasiment pas changé depuis 54 ans. Donc il y a un shaper qui doit venir pour nous donner des conseils, et donc ça va être une des priorités d'abord effectivement pour les Jeux du Pacifique 2027, mais également pour rehausser encore le parcours et développer notre activité commerciale.
Et le golf, malgré un passage de 300 à plus de 550 adhérents depuis 2018, doit impérativement attirer des touristes pour espérer approcher de l'équilibre financier. Et ce besoin d'activité touristique pour rendre le golf de Tahiti viable économiquement, personne ne l'ignore, surtout pas les élus de l'Assemblée. La semaine dernière, Moëté Brotherson avait répondu à la proposition d'amendement de Nuit aux l'oreille en rappelant qu'il n'existe pas un golf au monde qui soit bénéficiaire en étant qu'un golf sans activité connexe. Le chef du gouvernement a cette fois ajouté qu'un projet sérieux porté par un consortium d'investisseurs locaux lui avait été présenté.
Ces investisseurs sont venus me rencontrer à la présidence pour nous présenter ce projet de zone d'activité, donc sur le domaine d'Atimaono, avec plusieurs zones, avec une partie culturelle, une partie bien-être, santé, une partie nautique, avec la mise en place d'une marina et ces villas golfiques. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble qui est envisagé, également une intégration agricole. Les promoteurs, évidemment, y croient très fortement. Et je pense que c'est réellement vers ça qu'il faut qu'on s'oriente pour cette zone-là.
Mais pas question, bien sûr, de construire un complexe touristique en laissant le golf à un établissement public. Comme le confirme Herman Meul, le projet de réhabilitation a aussi pour objectif de mettre le site aux standards internationaux qui permettraient à des investisseurs de l'utiliser pour attirer la clientèle étrangère et donc au passage de mettre le golf en gestion privée.
Et pour terminer, Valdemar, on s'intéresse à une boisson un peu particulière.
Oui, le cava Ava en tahitien, et bien l'importation des racines séchées de poivriers permettant de le fabriquer a été libéralisée en mai dernier par le Conseil des ministres. Cette nouvelle réglementation a trouvé écho auprès de plusieurs Polynésiens. Différents importateurs et revendeurs se sont lancés depuis. La filière se structure pas à pas. Parmi eux, un couple, Sylvain Todman, qui a acquis la citoyenneté vanuatese après y avoir habité 20 ans, et Jenny Tehani, une Polynésienne. Ils ont lancé en octobre le Nakamal éphémère, un bar à cava itinérant, le premier du genre au Fénois. Il accueille et va à la rencontre du public. Le cava est fraîchement pressé et les chelles sont servies dans des endroits aussi variés qu'une pirogue, les locaux d'une société, un restaurant ou un marché de Noël. Le couple, qui a également une activité de livraison à domicile, ne travaille qu'avec du cava noble. Sylvain nous raconte.
Il y a de gros a priori, il y a des préjugés assez importants sur le cava. Le cava, c'est pas une drogue. Le cava, c'est pas de l'alcool. Le cava, il n'y a pas de dépendance. Le cava, ça a été démontré sur les 30 dernières années. Des gros consommateurs de cava dans la région, il n'y a pas d'hépatotoxicité tant que le cava est consommé normalement.